C'est l'heure de...
Hey, t'es sûr que c'est le bon bouton ?
Galéjade.
Quoi ?
Galéjade. Sur Radio Alpa, avec Geoffrey.
Bonjour à toutes et à tous, de retour ensemble pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je m'essaye à quelque chose d'un peu différent. J'ai déjà fait des entretiens en extérieur, des entretiens à la radio. Et là, cette fois, ça va être un entretien long. En extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est que cette saison, je vais me déplacer, rencontrer 2-3 artistes, je ne sais pas encore combien. J'ai pas de créneau, j'ai pas de date, j'ai pas de temps. Je prépare une liste de questions et en fonction de la disponibilité de mon invité, eh bien on échange sur un peu tout, beaucoup sur la carrière quand même de l'invité, puisque c'est un peu le principe de cette émission, c'est d'essayer de vous faire découvrir des gens du mieux que je peux. Et pour inaugurer ce format, je vais être reçu par Marc Lesser. Marc Lesser qui était déjà venu dans Galéjade, qui est un comédien de doublage que vous avez déjà entendu sur pas mal de choses. On va en reparler. Alors, comme je l'ai dit, ça va être un entretien assez long, donc ce sera un entretien qui tiendra sur 2 émissions. On va s'écouter le premier son, c'est avec le titre Facile, la session live. Pendant l'entretien, vous allez entendre d'autres morceaux, un morceau de Jacques, le titre Pourquoi. Vous entendrez Parallèle Univers de Marc Lesser, justement. Et nous conclurons cet entretien avec Moss en featuring avec Charlie pour le titre 1000 escaliers. Donc je vous laisse avec 7 et on revient juste après.
Doublé par un speed, tu m'as devancé. Soudoyé par l'espoir, mais quelle belle idée. Racheter le moment d'un souvenir passé. Trop tard pour la lune qui s'abandonne, passage erroné. Bouge jusqu'à l'aube, t'as bougé jusqu'à l'aube. Demain tu te rappelleras de rien, tant mieux ou pas, c'était si fragile. Ose parler, si tu n'oses pas, on réalisera plaisir adulé. Pour une seule nuit, c'était si facile. Pour une seule nuit, c'était si facile. Fixe une âme de fer, appelle-moi si tu te perds. Fixe une âme de fer, j'épouse un pied à terre. Fixe une âme de fer, appelle-moi si tu te perds. Fixe une âme de fer, j'épouse un pied à terre. Jusqu'à la redescente, imagine-toi. Plus jamais cette nuit en tête, on l'oubliera. Jusqu'à la redescente, imagine-toi. Mais si ce soir tu veux me rappeler, donne-moi l'heure, j'essaierai de passer. Doublé par un speed, tu m'as devancé. Soudoyé par l'espoir, mais quelle belle idée. Racheter le moment d'un souvenir passé. Trop tard pour la lune qui s'abandonne, passage erroné.
Bouge jusqu'à l'aube, t'as bougé jusqu'à l'aube.
Demain tu te rappelleras de rien, tant mieux ou pas, c'était si fragile. Ose parler si tu n'oses pas, on réalisera plaisir adulé. Pour une seule nuit, c'était si facile. Pour une seule nuit, c'était si facile.
Je
Je suis en compagnie de Marc Lesser,
oui,
comédien de doublage. Comment vas-tu, Marc ?
Ça va, je vais bien. Tout va bien. Ça fait plaisir de te retrouver, d'entendre ce rire en communicatif.
Merci. J'ai pas lancé l'enregistrement plus tôt, c'est dommage parce que je vérifie quand même que tout est bien lancé, oui ça marche. Parce que c'est mon point fort ça, de démarrer une interview et en fait je me rends compte que j'ai mal appuyé.
Ouais. Mais là on est assez rouge, là ça a l'air bien.
On était en train de parler
BD.
De bande dessinée, oui. Et t'allais donc me parler de...
Bah, en fait moi je suis de double nationalité, mon père était américain, c'était un GI américain, il s'est marié à ma mère qui était française, une chanteuse française. Okay. Voilà, je vais vous passer les détails, vous lirez le bouquin si un jour...
Ton autobiographie.
C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Je sais pas si je suis assez nombriliste pour ça, mais pourquoi
alors,
pas.
Une biographie.
Ouais, une BD, tu as une BD. Et puis, mais donc mon père m'achetait les comics, les comics, mais les vrais, parce que c'était en 1970, n'est-ce pas ? Donc c'était les vrais, parce qu'il avait le droit encore, on habitait beaucoup en Allemagne, à cette époque-là, on était en Allemagne. Parce qu'on a voyagé un peu partout en Europe, et donc il était plus militaire, mais il avait encore droit, tu sais, sur les bases militaires, il y avait le supermarché américain,
qui était...
donc le PX qu'on appelait, d'accord. Et donc moi je suis allé à la maternelle là, sur les bases américaines, ils avaient carrément en Allemagne les bus jaunes comme aux States,
okay.
J'avais un bus jaune comme aux States, là, les trucs de, comme dans les films,
ah ouais,
qui venaient me chercher pour aller à la maternelle, tu vois, américaine, okay. Sur la base militaire, et mon père m'achetait les comics, donc les 4 Fantastiques, tout le truc, et... Batman, tu vois le lien ?
Ouais, je vois un peu.
Je sais pas si tu voulais parler de ça, mais voilà.
Bah, j'allais en parler.
Alors, si tu veux, c'est maintenant. Donc, Batman, vas-y. Avec le lien avec les jeux vidéo après,
bah ouais.
Quand on m'a proposé de diriger du jeu vidéo, et notamment la série des Arkham, Batman, voilà.
Alors, trilogie Arkham, t'as fait les 3 ?
J'ai fait 4, parce qu'en fait, il y a Batcam, j'ai fait Arkham Asylum, Arkham City... Arkham Knight,
yes.
Et il y a eu un préquel un peu raté,
ah.
Qui n'était pas terrible. D'ailleurs, ce n'était pas le même studio qui développait.
C'est pour ça que celui-là,
je pense que les gens ne le mettent pas tellement dans la série. En
okay.
Fait, voilà. Et il y en a eu un autre derrière, ce n'est pas moi qui l'ai dirigé.
Mais alors, comment tu te retrouves justement sur le jeu vidéo ?
Alors, je faisais du jeu vidéo en tant que comédien.
Ouais.
Ok. Et puis, je suis quand même un vieux geek. Je ne suis pas un super gamer, mais je suis quand même un vieux geek. Et notamment, j'ai eu des ordis très tôt, quand ça a commencé à sortir, notamment pour faire de la musique. Tu vois, j'avais mon petit Atari 520 ST, parce que ça avait un port MIDI. Donc, ça nous permettait de brancher nos synthés et
les
boîtes à rythme dessus, sans s'embêter avec un truc encore externe, tout ça. Donc voilà, et puis je jouais du coup avec des trucs, évidemment. À l'époque, on s'émerveillait devant même un jeu en noir et blanc, en 2D, tu vois, en fil de fer. Il y avait un jeu, tu vois ce que j'ai dit.
Pour mettre ça dans le contexte, à l'époque, t'as rien.
Magnifique.
Tu découvres ça, c'est.
Non,
c'est
non, mais gamin sur un tournage, j'avais découvert les premiers arcades avec le tennis, là,
ouais,
le
pong.
Mais toute l'équipe était devant, scotchée, et ça coûtait une blinde à tout le monde toute la soirée. Et il y en avait que 2 qui jouaient, mais on était 15 autour, quoi, tu vois, regardez. Et le truc était hyper lent, c'est poung, ping, poung. Et c'était génial.
Ce qui était l'ancêtre de Twitch.
Ben oui, mais complètement, c'est pas faux. Oui, c'est vrai, c'est l'ancêtre de Twitch. C'est Twitch en live, mais pour de vrai. Et donc, pour finir, donc, je bossais pour une boîte, je faisais des voix. Et puis c'est vrai qu'un jour, avec une des chargées de prod qui était sympa, avec qui je m'entendais bien, j'ai dit « Ah, mais vous cherchez... » Parce que je voyais qu'il y avait d'autres copains qui dirigeaient, qui étaient aussi des comédiens, quoi. Et j'ai dit « Mais tu cherches pas des fois des DA ?» Puis moi, bon, je parle très bien anglais, donc c'est toujours pratique. Mmh. Et elle m'a dit « Ah ouais, pourquoi pas ?» Et puis ça passe, tu vois, comme ça. Et puis, plus de nouvelles. Et 6 mois après, en panique, elle me fait « T'es libre, là, la semaine prochaine ? Ça t'embête de bosser le soir ?» Moi, j'avais peut-être pas trop de boulot à ce moment-là. Donc je fais, bah ouais, vas-y. Et j'ai dirigé un vague jeu de guerre, un truc naze. Hein. genre de 6h à 2h du mat. Tu vois, 6h du soir à 2h du mat. Oui, ils avaient trop de taf. J'étais même avec un ingé son qui avait plutôt l'habitude de faire de la musique et des pubs. Pas du tout l'habitude du jeu vidéo. Donc on a un peu galéré.
Ouais,
il était choqué. Du son, carrément. Lui, il aimait bien les petits amplis à lampe, faire un petit son un peu chaleureux. Les mecs lui ont dit, non, non, non. Oh là là, et du numérique de base, à fond le compresseur, tu vois, etc. Je fais, ok, d'accord. Et on a fait ça, j'ai refait tout le texte parce que j'ai eu le droit à des trucs qui m'ont bien fait marrer. Hein, parce que quand t'as un copain qui est devant le micro et qui fait « Sergent, il y a 12 trous de balles dans le mur !» Tu fais « Non, bah, on va peut-être pas dire ça. »
On va peut-être pas le dire comme ça.
On va pas le dire comme ça. Voilà, et c'est comme ça que ça a démarré. Et un jour... au bout de quelques jeux, j'avais commencé à prendre un peu d'expérience. Je pense qu'il devait aimer ce que je faisais, quoi. Ils me disent « Tiens, viens par là, on a un truc à te proposer. Tu connais un peu l'univers Batman ?» Je fais « Vaguement, vaguement. ça te plairait de diriger un Batman ?» Faut pas le dire, hein, tu vois. Parce qu'évidemment, faut presque signer un truc de confidentialité avant que...
Ça devient de plus en plus fréquent, ces choses-là.
Ah, c'est affreux.
Ouais.
Attends, on va en parler après.
Ouais.
Et du coup, ils me disent « Eh ben voilà, ils sortent un jeu Warner Games, veulent faire un jeu, développe un jeu Batman. Arkham Asylum, on a pensé à toi. » Je fais « Oui, bah, ça peut m'intéresser. » Et en fait, à l'intérieur de moi, t'as un petit bonhomme, Marco, qui fait « Ouais, papa, trop cool, quoi, tu vois ?» Et du coup, je me suis replongé dans cet univers. C'était un délice. Et surtout, j'avais peur qu'ils nous refassent un Batman un peu rigolo, machin. Et ils nous ont fait un Batman bien dark, bien respectueux des comics, et des films, en fait, quoi, plutôt.
Tu vois, et puis, parce que après les Batman, moi, enfin, les souvenirs de jeux vidéo de Batman, où est-ce que ouais, tu dis c'était plus cartoon.
Ouais.
Là, quand tu vois le produit, quand tu vois les cinématiques et tout, tu
c'est
te dis,
bien, hein.
Ah, les gars, ils ont pas.
Moi, j'ai préféré.
Ils ont pas fait semblant.
Non, ils ont pas fait semblant. Puis tu sens qu'ils sont vraiment inspirés de ce qu'il fallait. Ils ont bien capté que c'est tous des grands malades, même maintenant, en fait. Ok. Et moi, j'ai adoré Arkham City. Je trouvais que c'était le plus cinématographique. Non, le deuxième. Et c'est le plus cinématographique. Oui. Les cinématiques avec Hugo Strange au début, tout ça, qui sont. Faudrait que je les re-regarde un petit peu d'ailleurs.
Ah, mais non, j'aime bien. Le mode de jeu de la ville complète,
t'es dans Gotham, était cool.
Vraiment cool, quoi.
Ouais.
Et tu y as joué ?
J'ai joué surtout à Arkham Asylum.
Ok.
Parce qu'il faut savoir que c'est des rares, hein, ils t'offrent pas les jeux. Hein.
Sérieux ?
Je les ai achetés. Moi aussi, ils m'en ont offert un pour PC. J'ai pas de PC, moi. Je suis sur console ou sur Mac. Mais ils t'offrent rien, non.
D'accord.
C'est pas leur faute, c'est pas la faute des studios, hein, c'est les éditeurs.
Mais,
hein.
Mais c'est bon, ça coûte quoi un jeu vidéo, quoi.
Non, mais ça leur coûte rien, mais c'est pas grave.
C'est dommage.
Mais les autres versions, soit c'est d'autres gens qui me les ont filées, offertes, quoi, soit je les ai achetées. Mais j'ai surtout joué à Arkham Asylum.
Et parce que tu participes à pas mal de conventions, mais dans ce milieu-là, il y a des gens qui viennent te voir avec des jeux Batman ?
Oui. Les jeux Batman, vraiment, ils m'ont repéré.
D'accord.
Parce que quand même, il y a eu des articles en plus sur la VF. Les gens ont vraiment bien aimé cette VF. Je suis très heureux parce que c'est un boulot collectif. Hein, c'est pas que moi, hein, c'est tous les acteurs évidemment. Et puis les ingénieurs du son, les chargés de prod que j'ai
eu. C'est Adrien Antoine qui fait Batman.
Adrien Antoine et Pierre Attey qui a repris son rôle du Joker, qui nous a quittés malheureusement. Mais qui était un vieux monsieur, mais les gens m'en parlent, oui, les gamers qui ont vraiment aimé ces trucs, ils adorent m'en parler, au contraire.
Mais donc toi, t'étais lecteur, tu disais, de comics,
ouais.
Est-ce qu'il y a un arc justement de Batman que...
Ouais, j'étais petit quand je lisais ces comics-là, donc je me souviens pas très très bien, hein. Mais non, moi j'aimais tout le truc classique, l'arrivée du Joker, Batman Joker, c'est un des trucs dont je me souviens dans les comics. Et puis les dessins étaient... Enfin moi j'étais petit quand même, c'était un peu... c'était un peu trauma quoi quand même.
À l'époque, hein, ouais. C'est pas un super-héros qu'on met dans les mains normalement.
Non. Et j'aimais beaucoup à l'époque, c'était aussi les 4 Fantastiques avec l'homme de pierre, là, comment il s'appelle ?
La Chose.
Ça, la chose, je kiffais. Je sais pas pourquoi, je l'aimais bien, ce mec-là. Moi, j'étais... peut-être parce qu'il était un peu balèze. Moi, j'étais un freluquet. Hein. J'étais tout maigrichon. Donc, j'aimais bien le mec un peu, tu vois, un peu costaud. En pierre, ça me plaisait bien.
Et là, justement, cette année, il y a le film Les 4 Fantastiques qui va sortir. C'est quelque chose que tu as envie de voir.
Écoute, alors, je vais peut-être finir par le voir, mais je cours plus après. J'en ai marre. Hollywood fait plus que ça, quoi, honnêtement. Il y en a qui sont bien. C'est... Vraiment, il y en a qui sont bien. Mais là... Enfin, ils n'ont plus rien à dire, quoi, tu vois. C'est le piège, en fait, c'est le piège. Ça fait un peu comme je pourrais pas comparer quand même avec le Hobbit et tout ça, parce que les films, il y a quand même des choses très bien dans les films, mais tu sais, quand tu as lu des choses, des BD ou des livres que tu as aimé, c'est comme Dune, quoi. Je suis obligé d'y aller quand même à un moment ou à un autre, parce que j'ai lu le livre, j'ai trop aimé. Je peux que être un petit peu déçu.
Oui,
parce qu'il n'y a pas les richesses du livre. Moi, j'aime la lecture aussi, tu vois, j'aime la littérature.
C'est l'univers que tu as, enfin,
et puis,
l'image que tu en as créée,
c'est jamais à ce niveau-là. Ouais. Après, il y a des choses attachantes, l'ambiance, le truc, voir des personnages en mouvement, quand ils décrivent des engins et tu le vois, Ben Gesserit, quand tu les vois utiliser la parole, tu fais, ouais, c'est bien, c'est pas mal quand même, quand t'entends la grosse voix, tu fais, tu vois. Tais-toi, mange ta soupe. Tu vois, ça serait pas mal quand même, quoi. Tu vois. Mais donc je pense que pour les 4 Fantastiques, je vais avoir ce phénomène-là. Je vais quand même avoir envie de voir un petit peu ce qu'ils ont fait. Mais J'ai un peu une saturation là, des trucs, ouais, des héros, tu vois.
La surproduction.
Ouais, la surproduction. Et puis, il y a un truc qui est un peu décevant pour quelqu'un comme moi, enfin, de ma génération, et ça le fait pas que pour ça, c'est qu'il y avait un côté innovant, rebelle à lire ces trucs-là ou à voir, tu vois. Là, maintenant, c'est devenu tellement mainstream, ouais, quoi, tu vois ce que je veux dire. Tu fais... Oh, ouais.
Je suis un geek aussi, donc moi, ça fait très longtemps que je lis, notamment Spider-Man, beaucoup quand j'étais ado. Et j'ai vu l'explosion dans les années 2000 de Spider-Man. Avant les films, j'étais qu'un taré qui lisait sa BD Spider-Man dans un coin. J'étais trop un gamin. Derrière, je suis devenu le référent, parce qu'il y avait des gars qui étaient là. Ouais, moi je connais Spider-Man et tout, j'ai vu les deux films, parce qu'à l'époque il n'y avait que deux films. Ouais. Et tu fais, non gars,
tu sais rien.
Et là tu deviens le mec, où ah ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Ah ouais. Et tu fais, waouh. Et quand c'est devenu mainstream, bah, ça a perdu sa petite saveur.
Radio Alpa, tu l'écoutes pas, écoute-la.
Mes plans se transforment sans cesse, se retrouvent toujours vides de sens. Deviennent de l'histoire ancienne, avant même d'entrer dans l'existence. Je vois des gens qui merdent, je vois des gens qui changent, je vois des gentils et des méchants qui se mélangent. Quand je demande pourquoi, on me dit que c'est comme ça, mais je sais, je voulais savoir pourquoi c'est comme ça. Sur le visage d'en face, j'ai prononcé ton mot de passe. Des os de briser la glace, je suis cash mais c'est mon mode de pensée. Y'a des gens qui rient, y'a des gens qui pleurent, y'a des sentiments qui reviennent en replay. Quand je demande pourquoi, on me dit que c'est comme ça, mais je sais, je voulais savoir. Pourquoi c'est comme ça?
Quelque part, pour faire le lien avec mon boulot, Dragon Ball, il y a un peu ce phénomène-là aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu cet animé, on l'a doublé quand c'est arrivé, donc c'était les années 90, 95, un truc comme ça pour moi, parce que Dragon Ball Z, je suis arrivé. Et puis ensuite, ça a disparu. Mmh. Et c'est finalement les aficionados, les amoureux de ces animés qui les ont fait revivre en important les mangas, en réimportant après sur des chaînes un peu spécialisées, machin, les VHS et les DVD et tout. Pour que finalement ça explose comme ça a explosé ces dernières années. Sauf que maintenant, c'est de la pop culture. Ouais. C'est-à-dire que même si t'as pas regardé, les gens, ils savent qui c'est, quoi. Son Goku, tu vois.
Et ça a perdu de sa superbe aussi.
Alors,
enfin, moi, d'un point de vue fan, je m'y retrouve plus.
Non, mais bien sûr, si tu veux, le côté, là, ce qui développe, même nous, on piche. Enfin, on cherche même plus à comprendre où ça va, okay. Quoi. Parce qu'au début, on a essayé de suivre un petit peu. Mais d'abord, nous, on le voit moins que les spectateurs fans.
Ouais, ouais.
Parce que nous, on les regarde pas que sans arrêt, tu vois. Donc, des fois, quand on nous pose des questions, on ne sait pas, en vrai.
Attends, tu me demandes quelque chose que j'ai fait il y a 15 ans.
Ouais, et puis, mais même quand c'est dans les trucs plus récents, quand on a fait Dragon Ball Super et tout, par exemple, mon personnage de Sangohan, il fait je sais pas quoi, il devient Saiyan machin dans le dernier film, là, oui. Je l'ai refait. Je suis incapable de m'en souvenir et de savoir c'est quoi la puissance, c'est quoi, j'ai plus la ref, quoi. tu vois. Et alors qu'eux, en convention, ils sont en train de dire « Ouais, mais quand il devient Saiyan bleu-violet,
il y a trop de choses. » Il...
voilà, quoi. Et puis la fin de la série Dragon Ball Super qu'on a fait, il y a un grand tournoi avec plein d'univers différents. T'as l'impression qu'ils sont en train d'essayer de voir quel va être le prochain spin-off, ouais, toi, de Dragon Ball. Bah, ouais. Quel est l'univers qui a le plus plu et qu'ils vont développer. Et bon... Je comprends, c'est aussi du business, c'est aussi... les gens sont attachés, ont envie de revoir. Tu vois, on est toujours... Pour des choses qui sont anciennes comme ça, c'est un peu ce que je te disais pour Batman, c'est t'es partagé, ou pour la chose, je veux dire, pour les 4 Fantastiques, t'es partagé entre ton affection, ton attachement à quelque chose que t'as aimé, et puis c'est en train de devenir un gros truc, bah, t'es quand même un peu obligé d'aller voir, parce que tu dis, ah quand même, je serais curieux de voir.
Ouais,
donc tu participes à reculons, je sais pas comment dire, tu vois. En même temps, ça te fait quand même plaisir. Ça va me faire plaisir de voir la chose un peu vivante, bouger. Tu vois, bien faite, parce que je sais bien qu'ils vont mettre des beaux effets.
Ah, mais même sur ça, tu vois, je trouve que les effets spéciaux des derniers films, ouais, je sais pas comment ils font, mais ils sont moins bons qu'il y a 15 ans, quoi.
Bah, c'est-à-dire, c'est leur CGI. Alors, je sais pas comment penser, parce que c'est peut-être un truc de vieux. Je trouve que ça va trop vite, des fois. Mais, mais même dans le Dragon Ball, en fait, quand on a fait le Broly... Oui. La dernière scène, les 3/4 d'heure, là, je te jure, j'étais au bord de la crise d'épilepsie quand on l'a doublé. Parce que ça, y a beaucoup de choses qui vont vite. Nous, on a besoin, par exemple, nous, c'est con, mais on a besoin de repérer quand il se frappe. Est-ce que c'est un coup qu'il prend, un coup qu'il donne? Est-ce qu'il a sauté? Est-ce qu'il atterrit? Est-ce que, tu vois, on essaie de différencier un peu nos réactions quand on fait tous nos onomatopées, tu vois. Et pour que ça ressemble un peu à quelque chose, essayer de coller au mieux. Donc, on voit les trucs... Tu vois que ça part dans tous les sens. Il y a des trucs qu'on avait... Alors, on était peut-être un peu fatigués, mais on a coupé en deux, d'ailleurs. On n'a pas tout fait le même jour. Mais c'est tout. Et puis, même quand j'ai revu le film après, sur grand écran et tout, c'était chouette, mais... Waouh, c'est quand même... tu sors presque fatigué de la séance, quoi, tu vois.
Mais justement...
Ça va film... vite. Ça va vite, toutes ces bastons-là. Tous les effets.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, ça va trop vite. Mais justement, les films et, ou les épisodes, les choses comme ça que vous doublez, que tu doubles... on vous les montre avant, histoire non, que non, vous non, ayez une idée.
Non,
de...
on les voit au fur et à mesure. Ah ouais, et même, maintenant, avant, on pouvait pas aller aussi vite, tu vois, le défilement. Ouais. Quand c'était pas numérisé, même quand c'était déjà sur grosse cassette vidéo, on avait des cassettes vidéo pro là, les U-matic. Bon, tu pouvais avancer, reculer assez vite, mais en règle générale, on voyait les épisodes dans la chronologie.
Oui,
tu vois. Voilà. Donc on devait faire Dragon Ball ou ce genre d'animé, on faisait 4 épisodes par jour. Voire 6, je crois, des fois, ce qui est beaucoup. C'est rapide, hein. Ça envoyait. On était un peu tous là. En plus, il n'y avait que 2 pistes audio, tu vois, possibles.
Oui, c'est vrai.
Donc, on était obligés d'être tous là. De temps en temps, on se servait de la deuxième piste pour faire des trucs quand ça gueulait trop, qu'on ne comprenait pas. C'était plus facile pour le mixage. Là, maintenant, tu vas où tu veux, dans le film, dans la série.
Ah oui, donc,
tu changes d'épisode comme ça. Okay. Il y a autant de pistes que tu veux. Donc... Souvent maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on vient moins longtemps sur les séries.
Okay.
C'est-à-dire, si t'as un personnage, s'il est dans l'épisode 2, 10, 12, 14, 42, on va tout regrouper le même jour.
Ah ouais.
Tu viens une matinée, il saute d'un épisode à l'autre, d'une scène à l'autre. Soit t'es tout seul, soit t'es avec le rôle avec lequel t'es le plus, tu vois, le comédien. Et puis, il y a 36 pistes, donc si t'as des effets d'enfer. Par exemple, si tu fais un personnage qui a un gros effet... Tu vas te retrouver tout seul à tous les coups pour tout enregistrer.
Okay.
Parce que genre t'as un masque ou t'as un, tu vois, un phaser, ils te remettent un truc. Parce que de toute façon, pour les trucages, maintenant ils préfèrent que tu sois sur une piste audio à part.
Okay.
Et là maintenant, il n'y a pas de limite. Donc si tu veux, il y a moins le côté tous ensemble, il y a moins le côté je vois tout.
Ouais.
Tu vois. Donc là maintenant, on voit jamais nous un épisode ou un truc. Hein.
Mais ça doit être difficile entier. Pour vous de savoir comment vous devez jouer.
Alors on connaît bien l'univers. On a quand même un directeur artistique qui est là, qui lui, normalement, a tout vu.
Ok.
Et qui, si tu veux, va nous expliquer ce qu'il y a. Voilà. Pour Dragon Ball, honnêtement, ça ne gêne pas trop parce qu'on connaît bien l'univers et nos personnages.
Ok.
Par contre, c'est vrai que quand tu arrives sur un nouveau truc et que tu dois mettre dans le coup et que tu es un peu genre tout seul, tu fais... ouais, les gars, ça va pas le faire. Enfin, c'est plus compliqué, quoi.
Ouais.
Parce que moi, j'aime pas être tout seul. Il y a des rôles... Alors, Jujutsu Kaisen, je le fais souvent tout seul. Ça me gêne un peu moins, Parce que Gojo Satoru, il est tellement dans son univers un peu barré. En plus, souvent, il fait des speeches à la con, si tu veux, où il est en train de, tu vois, où il est en train de chambrer un tel, ou alors il se bat tellement d'une façon particulière, tu vois, que vraiment, j'arrive à me mettre dans le coup. Et puis, si les autres ont déjà enregistré, je demande à les écouter, tu vois. On écoute évidemment l'original avant de travailler, hein. Mais j'ai pas vu tout l'épisode.
Ah, mais alors, en plus, ce qu'il y a, c'est qu'avec le Japon, les techniques de jeu, enfin, le jeu japonais et le doublage français, c'est pas du tout la même chose.
Bah, c'est-à-dire, on peut pas jouer comme eux, on peut pas le faire comme eux. Il y a des gens, des fois, qui disent, oh ouais, je préfère en japonais, c'est plus intense et tout. Je vais, mais si je te le faisais en français, mais comme ils font au Japon, tu sais, inécoutable très très vite. C'est inécoutable très très vite.
C'est parce que c'est les curseurs sont poussés vraiment trop loin des fois.
Ouais, ouais. Et puis il y a des trucs, par exemple, ils sont moins accro à la synchro que nous.
Oui.
Ils travaillent pas avec la bande rythmo comme nous.
Oui, ils ont des cahiers.
Peut-être on va dire la bande rythmo, parce que pour les gens qui écoutent, la bande rythmo, c'est donc une bande avec notre texte qui défile sous l'image, qui est synchronisée avec ton personnage, et tu as une petite barre
pour les mouvements
qui dit où tu dois parler. Okay. Et la barre défile un peu comme un karaoké, mais c'est un peu plus précis quand même qu'un karaoké. Et puis, il faut jouer la comédie, donc c'est encore autre chose. Mais donc, voilà. Donc, nous, on a ça, c'est projeté sous l'image. Donc, on regarde l'image et en même temps, on lit notre texte, tu vois. Donc, tu louches, en gros. Mais voilà. Et eux, en fait, ils ont le cahier, ils travaillent. C'est très joli, d'ailleurs, parce que quand ils sont plusieurs au micro, ils se laissent la place et tout. Ils répètent, hein. Ils ont leur texte avant, eux, par contre.
Ah ouais. D'accord.
Donc, c'est pas du tout pareil. Donc, s'ils sont un peu moins synchro, des fois, la VO, si tu le regardes, elle est pas toujours super synchro.
Ouais, c'est clair, dire. C'est clair.
Radio Alpa. Si tu l'écoutes pas, écoute-la.
Nos poignées de main, nos coups de poing dans les airs parallèles, univers créé des géométries insoupçonnées, des cercles, des carrés, des triangles dorés, des bulles de savon.
C'est pas du tout la même façon de travailler.
Non.
On voit des fois, et là je vais dériver un peu, certains films d'animation où est-ce qu'on nous dit, en plus dans ce film-là, vous aurez la voix de tel influenceur, machin et tout.
C'est du business, c'est du commerce.
On est d'accord, mais ça dénature un peu votre boulot en disant, limite, c'est à la portée de n'importe qui de venir faire une voix.
Alors, d'abord, ça dépend quel influenceur, qui, quoi. Dans ces influenceurs, il y en a qui sont en fait un peu comédiens et en bossant un peu, ça le fait. Alors, il faut maîtriser la technique pure, savoir lire en place, savoir jouer en ayant des obligations, en fait, en ayant un cadre. Tu sais, c'est un peu comme être musicien de studio, en fait. Tu as une sorte de partition que tu dois suivre. Et dans cette partition, bah, tu as une forme de liberté, mais tu as un cadre, quoi. Voilà. La tonalité est déjà établie. C'est pas toi qui l'as dit, c'est pas toi qui as choisi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois.
On peut faire un parallèle un peu comme ça. Donc, on fait ça. Et puis, si c'est des gens comédiens, même s'ils n'ont pas l'habitude de faire du doublage, ils peuvent venir faire du doublage. Ils sont comédiens, c'est pas un problème. C'est un boulot d'acteur. Alors, on met des influenceurs. T'en as qui sont plutôt doués parce qu'ils sont un peu comédiens. OK? Mais ce qu'on vous dit pas quand c'est un footballeur ou un pilote de F1,
je voulais pas dire, je voulais
c'est
pas
que tu as un directeur artistique qui a mis 3 fois plus de temps à diriger quelqu'un, qu'on leur donne souvent pas un grand rôle, ils ont un petit truc pour être sur l'affiche et que ça fasse un peu de pub et que ça touche des gens, bah oui, que la séance a mis vraiment 3 fois plus de temps qu'avec quelqu'un qui a l'habitude, que les directeurs artistiques sont des gens très patients, que l'ingé son, il garde tout.
Ah ouais.
Et que, bah oui, il garde, il a un chutier avec toutes les prises. Et que s'il faut, ils font un montage d'enfer derrière. Bah oui, parce que maintenant, on a des possibilités techniques qui font que. Donc, je ne veux pas dire de mal des gens qui ont tenté le coup. Mais ce n'est pas leur métier. C'est comme tout. C'est un truc hyper exigeant, le doublage, en termes de technique. Et tu n'arrives pas au niveau de, je ne sais pas qui tu aurais dans le doublage comme voix que tu aimes bien, mais tu n'es pas au niveau de Patrick Poivet ou Benoît Hamann du jour au lendemain, quoi, tu vois. Voilà. Tu ne peux pas doubler Morgan Freeman juste parce que tu es un influenceur. C'est un peu que être naze. Voilà. Pour donner l'exemple de Benoît, malheureusement, qui vient de nous quitter. Mais... Je pense que les gens vont bien voir la voix, tu vois, de qui je parle là. C'est pour ça.
Ah ouais, c'est clair, c'est clair.
Donc, ça, impossible à faire du jour au lendemain. Impossible.
Mais ça, par contre, donc tu dis Benoît Hamann nous a quittés, donc automatiquement, nouvelle voix pour Morgan Freeman. Ouais. Mais on voit aussi certains films où, d'un coup, c'est pas la même voix, sans comprendre.
Alors, il faut
pourquoi.
Que les gens sachent une chose, c'est que nos voix, les acteurs nous appartiennent pas. Nous, on est souvent intermittents quand on fait ce métier. On a aucun pouvoir, aucun droit. Ils remplacent qui ils veulent, quand ils veulent. Nos contrats, même sur une série, en fait.
Oui,
je suis même pas engagé pour la série entière, je suis engagé pour la journée.
Ah, ok.
Ok. Mon contrat, il est à la journée. Ben, c'est un cachet, en fait, à la journée. On a tout un système pour être payé, tout ça, Bon, ok. Mais en vrai, j'ai pas d'exclusivité de rien. Tout le monde peut doubler tout le monde.
Ça, je l'entends, je suis d'accord. Mais on a quand même, en France, on a quand même une culture du doublage.
Alors, c'est soit tu t'imposes, sur un acteur et on te rappelle tout le temps, ce qui arrive à certains copains, ok. Mais même là-dedans, il y a toujours un film qui échappe, un truc, etc. Honnêtement, l'idée actuelle est de plutôt, alors, ils respectent ça, mais en vrai. Ils n'ont pas trop envie non plus qu'on devienne des vedettes sur les acteurs qu'on double, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça les gêne, parce que ça te donne un certain pouvoir. C'est évident que nous, depuis 30 ans qu'on fait Dragon Ball, on n'a pas la même position que si tu fais un nouvel animé demain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ouais. Et comme on a une très grosse fanbase, ils ont essayé plusieurs fois de nous remplacer. Ça rue dans les brancards très très vite.
On avait eu le cas sur Dragon Ball GT.
Bah oui, ouais. Mais on a quand même été remplacés, hein, parce que c'était une autre époque.
Ouais, mais
ça avait bien gueulé et la série a pas marché, donc maintenant ils sont très méfiants.
Voilà.
Nous, on a la fin de Friends où moi je suis parti avec Emmanuel Curtil et Dorothée Gemma, où tous les gens qui le regardent en français me disent « Ah, quand ça a changé de voix, on s'est mis à la VO. »
Bah ouais. Mais moi, c'est comme ça que j'ai fini Friends en VO.
Mais je sais bien, je suis vraiment désolé pour vous.
Mais tu y peux rien, mais c'est là que tu vois que c'est quand même un...
Non, mais moi, j'adore que les gens aiment le doublage. C'est super, il y a une sorte de reconnaissance qui se fait. Parfois, ça me gêne un peu parce que nous, je suis la vieille école. Pour moi, le doublage... normalement, on n'est pas supposé se rendre. Un bon doublage, c'est un doublage qu'on remarque pas en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est fluide. Si tu te poses pas la question de la langue dans laquelle l'acteur a joué, ça veut dire que c'est cool, ça veut dire que c'est fluide et transparent et qu'on a bien bossé. Mais bon, c'est sympa d'avoir de la reconnaissance et puis il n'y a pas de raison. Notamment pour tous ces dessins animés où là, nos voix marquent encore plus les personnages. Mais si tu veux. ça devient très à la mode, c'est une pratique très ludique aussi, tout ce que tu veux, tu vois, et les réseaux sociaux font exploser le truc.
Justement, sur les réseaux sociaux, on voit pas mal de trucs avec des bandes rythmo, et c'est à toi de faire la voix.
Ils nous invitent à halluciner avec beaucoup ça, et c'est assez cool, hein, parce que franchement, c'est rigolo. Et puis les gens, on peut pas tellement filmer sur un plateau ce qui fait noir et tout ça, les tentatives qui ont été faites sont toujours un peu truquées, parce qu'on met de la lumière, alors qu'en vrai, nous, on peut pas bosser dans la lumière, tu vois, c'est dans la pénombre, de l'écran. Bon, alors sur les télés, c'est un peu plus facile, mais c'est compliqué de filmer vraiment dans les conditions réelles. Donc, tu as Donald qui fait ça sur Steam VF, là, sur son émission, sur Twitch.
Tu y étais déjà ?
Ouais, on y a été avec Emmanuel. Je suis allé une ou deux fois, je crois.
Je regarde beaucoup, mais je.
Il y en a une avec Emmanuel, on a fait une scène tous les deux qui est assez rigolote.
Ok. Ouais.
Ce qui est marrant pour nous dans le phénomène, quand on se retrouve, nous, ça nous fait marrer. Après, on a vieilli, tout ça, bon, voilà. Eux, à l'image, ils vieillissent pas. C'est la même période qui a marrant 30 ans. Mais si tu veux, c'est rigolo. Le phénomène que je trouve marrant, c'est que on n'oublie pas, quoi. On se remet dans le coup, ça redémarre aussitôt. C'est très étonnant parce qu'on a quand même fait pas mal, tu vois, Friends, Dragon Ball, on a fait pas mal d'épisodes.
C'est donc, comme un vieux couple qui se retrouve.
Mais oui, c'est étonnant. Alors avec Emmanuel, on peut être assez proches et on adore bosser ensemble. Donc le côté Joey Chandler, il revient très vite, quand même, tu vois. Mais non, c'est assez sympa.
Mais maintenant, avec le temps, vous vous êtes jamais retrouvé à rebosser après
Mais ça c'est pas fait, parce que en fait, c'est devenu tellement énorme. C'est un des soucis, c'est une des raisons pour lesquelles on est parti aussi. Enfin, parti. Nous, on voulait pas partir, mais on n'a pas accepté les conditions dans lesquelles on nous demandait de travailler. C'est que, si tu veux, on nous remplaçait sur des gens qu'on avait déjà doublés, dans des nouvelles choses. On nous proposait pas tellement de nouvelles choses, parce que nos voix étaient hyper connues. Et il y a carrément des trucs qu'on n'a pas fait parce qu'ils allaient nous remettre ensemble et qu'ils ne voulaient pas refaire Joey Chandler parce qu'ils avaient peur que les gens y pensent de trop. Les seules fois où on a bossé ensemble avec Emmanuel après Friends, c'est dans des pubs. Quoi. Ouais. Parce que les gens, au contraire, aimaient bien de vous avoir tous les deux pour ça. Quoi, tu vois.
Et c'est ça qui est bizarre, parce qu'il y a quand même plein de films, plein de comédiens qui font du doublage, où est-ce que tu passes d'un film à l'autre. Si tu n'es pas dans la pièce, tu entends la voix, tu fais « Tiens, c'est un film avec machin ». T'arrives, ah non, c'est pas cet acteur-là, d'accord.
ben ouais. Oui, parce qu'on a fait plein de trucs différents, mais tu sais, on change pas toujours vraiment nos voix, parce que tu fais un acteur différent. T'as a priori pas à changer ta voix, si c'est pas un petit bonhomme rigolo, ou tu vois, qui a pas un accent à deux balles. Mais en fait, t'as quand même un petit changement. Si tu écoutes bien, on s'adapte au corps, à l'élocution, à ce qu'on voit à l'image, à ce qu'il fait.
L'assurance du personnage.
L'assurance, comment il parle, sa nervosité, son énergie, tu vois. Et en fait, ça crée des petites différences où parfois, tu mets un certain temps. Tu vois, par exemple, là, j'ai fait un truc, les gens n'ont pas tellement l'habitude, n'ont plus tellement l'habitude de m'entendre là-dessus. J'ai fait un rôle d'un mec, moi, je fais souvent quand même des psychopathes, des autistes, des schizophrènes. Donc là, il est un peu autiste. C'est dans Silo, une série Silo qui est sur Apple, là. Très sympa, tiré de livres que je ne connaissais pas. Donc un truc post-apocalyptique, tu vois. Et il est seul, et puis il y a cette femme donc, qui s'est échappée de son silo et qui le trouve lui seul dans le sien de silo, etc. Okay. Je vous spoil pas trop, si jamais vous allez voir. Bon, j'ai pas regardé le résultat final, mais j'ai eu des petits messages de gens qui ont fait « Ah, c'est bien toi, on n'était pas sûr. »
Ah ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'évidemment, c'est un personnage, je m'adapte, c'est un personnage qui a plutôt mon âge en plus, il est plus vieux. Donc les gens ont toujours l'habitude d'entendre, parce que j'ai une voix assez énergique, qui est restée assez jeune. Pas du tout ce genre de personnage. Donc c'est rigolo d'avoir les réflexions des gens.
Okay. Fais,
ah, c'était cool, on a adoré, ça te change. Ça te va vachement bien, tout machin. Plutôt sympa, un accueil plutôt sympa. Et bah, pour moi, c'est agréable parce que je me dis, ah bah tu vois, ça. Les gens perçoivent bien, tu vois, ton taf. Mais j'ai pas vraiment changé ma voix. Je me suis adapté au personnage.
Oui.
C'est pour ça qu'on est comédien, en fait.
Et comme c'est quelque chose de différent, les gens.
Mais les gens, du coup, pensent pas à toi obligatoirement. Il n'y a pas obligatoirement ce truc. Ah, j'entends la voix. C'est pas toujours ta même voix qui est plaquée sur tous.
Oui.
Il y a une sorte d'adaptation. Et parfois, elle se fait complètement intuitivement, naturellement, quand tu as l'habitude, tu vois. Il y a un petit boulot au début, évidemment, avec le directeur artistique qui t'explique ton perso, l'histoire, l'époque, tu vois, etc. Et puis après, bah, y a une petite tambouille qui se fait dans ta tête, ou je sais pas où en fait, je sais pas comment. Et je pense qu'il y a aussi un peu d'expérience, de savoir regarder ce qu'il faut regarder, les yeux de ton personnage, ses attitudes physiques.
Ouais, mais ça marche dans les séries live ou films live, dans les animés.
Mais en fait aussi.
Ah ouais?
Mais oui, parce que si tu regardes bien, c'est de la caricature et tu sais bien que ça va au, le trait va à l'essentiel du coup. Mm-hmm. Et c'est hyper intéressant. Tu sais, je fais des interventions dans les formations pour des comédiens pros qui veulent faire du doublage. Et je m'occupe particulièrement d'un stage qu'on fait que sur du dessin animé. Okay. Et c'est libérateur pour les acteurs. Mais en vrai, petit à petit, je leur montre plein de styles de dessin animé. Et j'ai des styles qui sont très réalistes. Et là, ils sont hyper troublés. Parce qu'en fait...
Ouais, parce que les curseurs ne sont pas poussés, ouais.
Ouais, mais en fait, c'est le même boulot. C'est-à-dire, tu dois avoir la même précision. Même quand la bouche, c'est pas aussi précis qu'une vraie bouche. Mm-hmm. Que c'est du dessin manga. Par exemple, l'animé, on dit souvent, oh, les bouches. Ouais, mais si t'es pas synchro, bah, ça fait bizarre, en fait. Si t'es pas dans le rythme, en fait, faudrait pas que je fasse ça haut, tu vois. Parce que là, c'est plutôt une question de rythme que de précision, vraiment, de l'articulation, tu vois.
Ouais, puis quand t'es dans le réalisme, enfin, dans, plus proche du réalisme, c'est pareil, tu peux pas y mettre la même intensité, sinon tu dénatures complètement.
Ouais, par exemple, j'ai une série qui s'appelle Undone, que j'adore regarder. Undone, c'est génial comme série. C'est de la rotoscopie, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, okay, un peu comme, je crois que Disney bossait comme ça dans les premiers. Mmh. C'est-à-dire, c'est des acteurs qui ont joué.
Et après, ils refont.
Ça a été redessiné. Mmh. Mais du coup, ça efface une partie des expressions. Ouais. Mais quelque part, ça garde le principal.
Ok.
Il n'y a plus de parasites. Et les comédiens qui n'ont pas l'habitude, quand ils bossent là-dessus, ils sont hyper troublés. Et en même temps, ils disent, ouais, c'est dingue, c'est facile. Enfin, tu piges vite, ouais, tu vois ce que je veux
tu
dire.
Tu vois les émotions.
Tu perçois vite ce qui
ouais,
se passe.
Okay.
Et c'est hyper intéressant. Et comme boulot de comédien, alors on va rentrer dans des trucs plus d'acteurs, mais c'est un peu comme quand tu fais le travail du masque en comédie.
C'est-à-dire, c'est quoi?
Eh ben, c'est un, t'as un masque sur une partie du visage, la comédia dell'arte et les choses ouais, comme ça. Et en fait, ça, comment te dire, ça concentre une partie des émotions. C'est bizarre parce que t'as une partie qui est moins mobile et en même temps, ça enlève du parasitage de ce que tu peux exprimer.
Ok.
C'est un peu technique là, hein?
Ouais, ouais, carrément.
Mais faut, ouais, ouais, ouais. Et les gens qui font du clown ou du masque, ils ont vraiment l'habitude de ça et le dessin animé leur parle très très vite. Tu vois des gens par exemple où, je sais pas si tu vois Gérard Suru qui fait la voix de Bugs Bunny.
Ah oui, ok, d'accord.
C'est un gars qui a fait beaucoup d'impro, qui faisait partie de la ligue d'impro qui avait, à Paris et qui est très clownesque, qui vient de ça. Et il a cette capacité incroyable en dessin animé, tu vois, à vraiment trouver les expressions, la voix qui va avec et tout. Et, mais tu sais, des gens comme Roger Carrel, c'était des gens qui savaient aller à l'essentiel du personnage qu'il avait à créer. Et c'est vachement important, en fait.
Serre-toi contre moi, ou bien serre-moi contre toi ce soir. Ne soyons pas les autres.
Faut-il être comme les autres, une âme perdue? Pour qui un jour sans thune, c'est comme un jour sans plus. Pour qui l'avenir, c'est juste un jour de pluie. Le verre à moitié plein n'est jamais assez rempli. Acheter une maison avec un escalier, deux escaliers et même trois escaliers. Un grand jardin avec piscine privée, 10 000 m² pour rester devant la télé. Dire à ses enfants qu'il faut marcher plus vite, que papa est pressé et qu'il va perdre un tas de fric. Ne pas croire ce qui t'écrit dans les livres. Regarde la planète, c'est comme une grande tirelire. Mais dis-moi si je change, si t'as des doutes. Si un jour je pense que les pique-niques c'est pour les ploucs. Inutile de se trouver des raisons. Ce qui compte ici, c'est de se trouver du réseau.
Serre-toi contre moi, ou bien serre-moi contre toi ce soir. Ne soyons pas les autres. Allez, serre-moi contre toi, ou bien serre-toi contre moi.
Mais faut-il être comme les autres, avoir peur du temps qui passe, voir son voisin comme un connard ou une menace, s'inquiéter de le voir sortir en tong avec une kippa ou bien une barbe un peu trop longue, faire les courses en matant les étiquettes, pardonner au peuple d'être en galère 6 jours sur 7, jamais bon de voir l'état en providence, quand parfois on choisit entre la viande et les vacances, quand la nuit tombe, noyer son malaise, les discothèques pour voir à qui tu plais, on se consomme comme une cigarette, on se fume, on se refume et après on se jette, mais dis-moi si je change, si t'as des doutes, si je fais des photos avec la bouche en cul de poule, on n'arrête pas le vent, en soufflant contre, c'est comme arrêter le temps, en jetant sa montre.
Serre-toi contre moi, ou bien serre-moi contre toi ce soir. Ne soyons pas les autres. Allez, serre-moi contre toi, ou bien serre-toi contre moi ce soir. Ne soyons pas les autres. Serre-toi, serre-toi, serre-moi ce soir.
les os. Ne savoir dire je t'aime qu'avec des cœurs et par texto. Trouver un job, marcher à reculons. On pense devenir un homme alors qu'on devient un mouton. Qui se ressemble, s'assemble. Je veux pas être un Lego. Même si je sais bien qu'on est toujours le con d'un autre. Parcourir le monde, à trouver ma moitié. Savoir d'où je viens autant que savoir qui tu es. Acheter une maison avec un escalier. Deux escaliers ou bien trois escaliers. Quatre escaliers et même cinq escaliers. Dix escaliers ou bien mille escaliers.
C'est toi contre moi ou bien c'est moi contre toi ce soir. Ne soyons pas les autres. C'est toi contre moi ou bien c'est moi contre toi ce soir. Ne soyons pas.
Papier Zurek.
T'as parlé d'impro. Aujourd'hui, vous, dans votre métier,
oui.
Quelle est la part d'impro, justement?
Alors, on est plus surveillé, parce que maintenant, évidemment, t'as tous les diffuseurs, les plateformes, voilà. Je dirais que quand t'es quelqu'un, selon ce que tu as fait, on est bon, quand même quelques-uns, mais à pouvoir se proposer en tout cas des choses et se permettre des trucs. Je pense même que, par exemple, tu as des gens comme Emmanuel Garigeau, Suruc dont je parlais, Emmanuel Curtil, des gens comme ça, je pense que quand on les fait venir, c'est aussi parce qu'on a envie d'une proposition.
Okay.
Et puis il y a d'autres gens qui vont avoir moins de liberté. Je dirais que ça dépend un petit peu et de ta réputation et de ta place dans le métier, entre guillemets. Je pense que le fait d'avoir des années d'expérience, d'avoir fait certaines choses aussi. Moi, si tu veux... je pense qu'on fait partie des gens où, quand je fais par exemple de Gojo Satoru sur Jujutsu Kaisen, il y a plein de trucs que j'ai proposé qu'ils ont gardé, tu vois, parce qu'il y a des trucs en plus. Là, je pourrais pas, j'ai pas d'exemple qui me vient, mais si tu veux, des trucs rigolos ou des expressions que j'ai rajoutées, des trucs tout simples des fois, mais qui vont vers le personnage, qui donnent le petit truc. Parce que ça, c'est le petit accident, ça a toujours existé dans notre métier. Ça, c'est le petit accident qui fait que ça. Ça prend le petit plus. Dans Friends, on était moins surveillés. Il y avait toujours le petit plus, un mec qui changeait un peu l'expression, un de nous, tu vois, qui avait tout d'un coup une idée. Tu vois, l'auteur, par exemple, Jean-Jacques Pron, qui écrivait les textes, ça l'énervait parce que c'est dur à adapter pour un dialoguiste. C'est hyper dur. En plus, la boîte pour laquelle on bossait, c'était vraiment l'organisation était un peu... voilà. Donc des fois, il avait très peu de temps pour écrire. Il passait des heures sur des gags. Il n'était pas content. Tu vois, il trouvait un truc, franchement, qui était tout à fait bien. Et nous, sur le plateau, on trouvait un truc, mais mille fois mieux.
Ouais,
et il venait régulièrement nous voir. Et ça l'énervait. Il disait, pourquoi je n'y ai pas pensé? Et si tu veux, mais on
lui disait... Oui, mais ça l'énerve dans le bon sens.
Mais c'est bien pas, sûr, ça l'énerve dans le bon sens. Il était heureux qu'on... Et nous, on lui disait, mais attends... Nous, c'est parce qu'on est dedans toute la journée, on les voit, on les connaît, on a des idées qui fusent. Et puis nous, on est six. Tu vois, il y a une sorte d'échange entre nous qui fait que ça sort.
Et puis avec ce qu'ils vous proposent,
mais c'est ce qu'on lui disait. Alors, il nous disait tout le temps, ah, vous dites ça pour me flatter, tu vois, etc. Mais pas du tout, je le pense vraiment. Si t'as un mauvais texte, c'est très dur de t'en sortir. Ça reste quand même un art de la parole, le doublage. Hein. On n'a pas besoin de doublage si c'est du mime. Hein.
Radio Alpa. Tu l'écoutes pas, écoute-la.
Et voilà, c'était donc la première partie de cet entretien avec Marc Lesser, que je remercie. Vous êtes dans Galéjade sur Radio Alpa 107.3 Le Mans. Alors, on a écouté tout au long de cet entretien... Excusez-moi pour la toux, c'était cadeau, c'est bonus. On a d'abord écouté 7 avec le titre Facile, la version live. On a écouté Jacques avec le titre Pourquoi. On a écouté Parallèle Univers de Marc Lesser. Et enfin, le dernier titre, c'était Moss et Charlie avec le titre « Mille escaliers ». Excusez-moi. Donc, c'est bientôt la fin de l'émission. Avant de conclure, on va faire une petite recommandation culturelle. Je vais vous parler d'une bande dessinée que je suis en train de lire. C'est une bande dessinée de Jordi Lafèvre. Pour ceux qui écoutent le direct, Jordi Lafèvre sera à la librairie Bulle ce samedi pour dédicacer justement cet album qui s'appelle « Je suis un ange perdu ». C'est la suite de « Je suis votre silence, si je dis pas de bêtises. C'est un polar à Barcelone. C'est l'histoire d'Eva Royas, qui est psychologue et qui se retrouve impliquée dans un meurtre et qui doit expliquer à la police pourquoi elle est là. C'est très beau, c'est très bien fait. La couverture est magnifique, je vais la partager sur les réseaux sociaux. Et si vous connaissez, bah, je ne peux que vous inviter samedi à aller découvrir l'auteur qui sera en dédicace à la librairie Bulle. Non, excusez-moi pour cette toux. Si vous voulez, dans 15 jours, enfin même si vous voulez pas, j'ai envie de vous dire, dans 15 jours, il y aura la suite de cet entretien avec Marc Lesser. Si vous écoutez le direct, je vais vous laisser avec Delphine et Vertige. Si vous écoutez l'Ardif, je vais vous laisser avec Oblique. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est simple, c'est Galéjade _ émission sur Instagram, galéjade.émission sur Facebook. Marc, c'est Marco on the web sur Instagram. Et si vous écoutez le podcast, eh ben on va vous laisser avec ce que vous voulez. Faites-vous plaisir et on se retrouve très vite.
C'est l'heure de...
Hey, t'es sûr que c'est le bon bouton ?
Galéjade.
Quoi ?
Galéjade. Sur Radio Alpa, avec Geoffrey.